Consuelo, livre 1, chapitre 21. Le plus embarrassé de son rôle, lors de la fuite de Consuelo, ce fut le comte Giustiniani. Après avoir laissé dire et donné à penser à tout Venise que la merveilleuse débutante était sa maîtresse, comment expliquer d'une manière flatteuse pour son amour-propre qu'au premier mot de déclaration elle s'était soustraite brusquement et mystérieusement à ses désirs et à ses espérances? Plusieurs personnes pensèrent que, jaloux de son trésor, il l'avait caché dans une de ses maisons de campagne. Mais lorsqu'on entendit le Porpora dire avec cette austérité de franchise qui ne s'était jamais démentie le parti qu'avait pris son élève d'aller l'attendre en Allemagne, il n'y eut plus qu'à chercher les motifs de cette étrange résolution. Le comte affecta bien, pour donner le change, de ne montrer ni dépit ni surprise. Mais son chagrin perça malgré lui, et on cessa de lui attribuer cette bonne fortune dont on l'avait tant félicité. La majeure partie de la vérité devint claire pour tout le monde, savoir l'infidélité d'Anzoletto, la rivalité de Corilla et le désespoir de la pauvre Espagnole qu'on se prit à plaindre et à regretter vivement. Le premier mouvement d'Anzoletto avait été de courir chez le Porpora, mais celui-ci l'avait repoussé sévèrement. « Cesse de m'interroger, jeune ambitieux, sans cœur et sans foi, » lui avait répondu le maître indigné. « Tu ne méritas jamais l'affection de cette noble fille, et tu ne sauras jamais de moi ce qu'elle est devenue. Je mettrai tous mes soins à ce que tu ne retrouves pas sa trace, et j'espère que si le hasard te l'a fait rencontrer un jour, ton image sera effacée de son cœur et de sa mémoire, autant que je le désire et que j'y travaille. » De chez le Porpora, Anzoletto s'était rendu à la Corte Minelli. Il avait trouvé la chambre de Consuelo déjà livrée à un nouvel occupant et tout encombrée des matériaux de son travail. C'était un ouvrier en verroterie, installé depuis longtemps dans la maison et qui transportait là son atelier avec beaucoup de gaieté. « Ah, c'est toi, mon garçon !» dit-il au jeune ténor. « Tu viens me voir dans mon nouveau logement ? J'y serai fort bien, et ma femme est toute joyeuse d'avoir de quoi loger tous ses enfants en bas. Que cherches-tu ? Consuelina aurait-elle oublié quelque chose ici ? Cherche, mon enfant, regarde, cela ne me fâche point. » « Où a-t-on mis ces meubles ? » dit Anzoletto, tout troublé et déchiré au fond du cœur de ne plus retrouver aucun vestige de Consuelo dans ce lieu consacré aux plus pures jouissances de toute sa vie passée. « Les meubles sont en bas dans la cour. Elle en a fait cadeau à la mère Agathe. Elle a bien fait. La vieille est pauvre et va se faire un peu d'argent avec cela. Oh, la Consuelo a toujours eu un bon cœur. Elle n'a pas laissé un sou de dette dans la corte. Et elle a fait un petit présent à tout le monde en s'en allant. Elle n'a emporté que son crucifix. C'est drôle tout de même, ce départ au milieu de la nuit, et sans prévenir personne. Maître Porpora est venu ici dès le matin arranger toutes ses affaires. C'était comme l'exécution d'un testament. Ça a fait de la peine à tous les voisins. Mais enfin, on s'en console, en pensant qu'elle va habiter sans doute un beau palais sur le Canalazzo, à présent qu'elle est riche et grande dame. Moi, j'avais toujours dit qu'elle ferait fortune avec sa voix. Elle travaillait tant. Et à quand la noce, Anzoletto? J'espère que tu m'achèteras quelque chose pour faire de petits présents aux jeunes filles du quartier. Oui, oui, répondit Anzoletto tout égaré. Il s'enfuit, la mort dans l'âme, et vit dans la cour toutes les commères de l'endroit qui mettaient à l'enchère le lit et la table de Consuelo. Ce lit où il l'avait vu dormir, cette table où il l'avait vu travailler. « Oh, mon Dieu, déjà plus rien d'elle !» s'écria-t-il involontairement en se tordant les mains. Il eut envie d'aller poignarder la Corilla. Au bout de 3 jours, il remonta sur le théâtre avec la Corilla. Tous deux furent outrageusement sifflés, et on fut obligé de baisser le rideau sans pouvoir achever la pièce. Anzoletto était furieux, et la Corilla impassible. Voilà ce que me vaut ta protection, lui dit-il d'un ton menaçant dès qu'il se retrouva seul avec elle. La prima donna lui répondit avec beaucoup de tranquillité. Tu t'affectes de peu, mon pauvre enfant. On voit que tu ne connais guère le public et que tu n'as jamais affronté ses caprices. J'étais si bien préparée à l'échec de ce soir que je ne m'étais pas donné la peine de repasser mon rôle. Et si je ne t'ai pas annoncé ce qui devait arriver, c'est parce que je savais bien que tu n'aurais pas le courage d'entrer en scène avec la certitude d'être sifflé. Maintenant, il faut que tu saches ce qui nous attend encore. La prochaine fois, nous serons maltraités de plus belle. 3, 4, 6, 8 représentations peut-être se passeront ainsi. Mais durant ces orages, une opposition se manifestera en notre faveur. Fussions-nous les derniers cabotins du monde, l'esprit de contradiction et d'indépendance nous susciterait encore des partisans de plus en plus zélés. Il y a tant de gens qui croient se grandir en outrageant les autres, qu'il n'en manque pas qui croient se grandir aussi en les protégeant. Après une douzaine d'épreuves, durant lesquelles la salle sera un champ de bataille entre les sifflets et les applaudissements, les récalcitrants se fatigueront, les opiniâtres bouderont, et nous entrerons dans une nouvelle phase. La portion du public qui nous aura soutenus, sans trop savoir pourquoi, nous écoutera assez froidement. Ce sera pour nous comme un nouveau début. Et alors, c'est à nous, vive Dieu, de passionner cet auditoire et de rester les maîtres. Je te prédis de grands succès pour ce moment-là, cher Anzoletto. Le charme qui pesait sur toi, naguère, sera dissipé. Tu respireras une atmosphère d'encouragement et de douce louange qui te rendra ta puissance. Rappelle-toi l'effet que tu as produit chez Giustiniani la première fois que tu t'es fait entendre. Tu n'eus pas le temps de consolider ta conquête. Un astre plus brillant est venu trop tôt t'éclipser. Mais cet astre s'est laissé retomber sous l'horizon, et tu dois te préparer à remonter avec moi dans l'Empyrée. Tout se passa ainsi que la Corilla l'avait prédit. À la vérité, on fit payer cher aux deux amants, pendant quelques jours, la perte que le public avait faite dans la personne de Consuelo. Mais leur constance à braver la tempête épuisa un courroux trop expansif pour être durable. Le comte encouragea les efforts de Corilla. Quant à Anzoletto, après avoir fait de vaines démarches pour attirer à Venise un primo uomo dans une saison avancée, où tous les engagements étaient faits avec les principaux théâtres de l'Europe, le comte prit son parti et l'accepta pour champion dans la lutte qui s'établissait entre le public et l'administration de son théâtre. Ce théâtre avait eu une vogue trop brillante pour la perdre avec tel ou tel sujet. Rien de semblable ne pouvait vaincre les habitudes consacrées. Toutes les loges étaient louées pour la saison. Les dames y tenaient leur salon et y causaient comme de coutume. Les vrais dilettanti boudèrent quelque temps. Ils étaient en trop petit nombre pour qu'on s'en aperçût. D'ailleurs, ils finirent par s'ennuyer de leur rancune. Et un beau soir, la Corilla, ayant chanté avec feu, fut unanimement rappelée. Elle reparut, entraînant avec elle Anzoletto, qu'on ne redemandait pas, et qui semblait céder à une douce violence d'un air modeste et craintif. Il reçut sa part des applaudissements et fut rappelé le lendemain. Enfin, avant qu'un mois se fût écoulé, Consuelo était oublié, comme l'éclair qui traverse un ciel d'été. Corilla faisait fureur, comme auparavant, et le méritait peut-être davantage, car l'émulation lui avait donné plus d'entrain, et l'amour lui inspirait parfois une expression mieux sentie. Quant à Anzoletto, quoiqu'il n'eût point perdu ses défauts, il avait réussi à déployer ses incontestables qualités. On s'était habitué aux uns, et on admirait les autres. Sa personne charmante fascinait les femmes. On se l'arrachait dans les salons, d'autant plus que la jalousie de Corilla donnait plus de piquant aux coquetteries dont il était l'objet. La Clorinda aussi développait ses moyens au théâtre, c'est-à-dire sa lourde beauté et la nonchalance lascive d'une stupidité sans exemple, mais non sans attrait pour une certaine fraction des spectateurs. Giustiniani, pour se distraire d'un chagrin assez profond, en avait fait sa maîtresse, la couvrait de diamants et la poussait au premier rôle, espérant la faire succéder dans cet emploi à la Corilla, qui s'était définitivement engagée avec Paris pour la saison suivante. Corilla voyait sans dépit cette concurrence dont elle n'avait rien à craindre, ni dans le présent ni dans l'avenir. Elle prenait même un méchant plaisir à faire ressortir cette incapacité froidement impudente qui ne reculait devant rien. Ces deux créatures vivaient donc en bonne intelligence et gouvernaient souverainement l'administration. Elles mettaient à l'index toute partition sérieuse et se vengeaient du Porpora en refusant ses opéras pour accepter et faire briller ses plus indignes rivaux. Elles s'entendaient pour nuire à tout ce qui leur déplaisait, pour protéger tout ce qui s'humiliait devant leur pouvoir. Grâce à elle, on applaudit cette année-là à Venise les œuvres de la décadence, et on oublia que la vraie, la grande musique, y avait régné naguère. Au milieu de son succès et de sa prospérité, car le comte lui avait fait un engagement assez avantageux, Anzoletto était accablé d'un profond dégoût, et succombait sous le poids d'un bonheur déplorable. C'était pitié de le voir se traîner aux répétitions, attaché au bras de la triomphante Corilla. Pâle, languissant, beau comme un ange, ridicule de fatuité, ennuyé comme un homme qu'on adore, anéanti et débraillé sous les lauriers et les myrtes qu'il avait si aisément et si largement cueillis. Même en représentation, lorsqu'il était en scène avec sa fougueuse amante, il cédait au besoin de protester contre elle par son attitude superbe et sa langueur impertinente. Lorsqu'elle le dévorait des yeux, il semblait, par ses regards, dire au public « N'allez pas croire que je réponde à tant d'amour. Qui m'en délivrera, au contraire, me rendra un grand service. » Le fait est qu'Anzoletto, gâté et corrompu par la Corilla, tournait contre elle les instincts d'égoïsme et d'ingratitude qu'elle lui suggérait contre le monde entier. Il ne lui restait plus dans le cœur qu'un sentiment vrai et pur dans son essence, l'indestructible amour qu'en dépit de ses vices, il nourrissait pour Consuelo. Il pouvait s'en distraire grâce à sa légèreté naturelle, mais il n'en pouvait pas guérir, et cet amour lui revenait comme un remords, comme une torture, au milieu de ses plus coupables égarements. Infidèle à la Corilla, adonné à 1000 intrigues galantes, un jour avec la Corinda pour se venger en secret du comte, un autre avec quelque illustre beauté du grand monde, et le troisième avec la plus malpropre des comparses. Passant du boudoir mystérieux à l'orgie insolente, et des fureurs de la Corilla aux insouciantes débauches de la table. Il semblait qu'il eût pris à tâche d'étouffer en lui tout souvenir du passé. Mais au milieu de ce désordre, un spectre semblait s'acharner à ses pas, et de longs sanglots s'échappaient de sa poitrine, lorsqu'au milieu de la nuit, il passait en gondole, avec ses bruyants compagnons de plaisir, le long des sombres masures de la Corte Minelli. La Corilla, longtemps dominée par ses mauvais traitements, et portée, comme toutes les âmes viles, à n'aimer qu'en raison des mépris et des outrages qu'elle recevait, commençait pourtant elle-même à se lasser de cette passion funeste. Elle s'était flattée de vaincre et d'enchaîner cette sauvage indépendance. Elle y avait travaillé avec acharnement, elle y avait tout sacrifié. Et quand elle reconnut qu'elle n'y parviendrait jamais, elle commença à le haïr et à chercher des distractions et des vengeances. Une nuit, quand Zoletto errait en gondole dans Venise avec la Clorinda, il vit filer rapidement une autre gondole dont le fanal éteint annonçait quelque furtif rendez-vous. Il y fait peu d'attention, mais la Clorinda, qui dans sa frayeur d'être découverte était toujours aux aguets, lui dit « Allons plus lentement, c'est la gondole du comte, j'ai reconnu le gondolier. » « En ce cas, allons plus vite, » répondit Anzoletto. « Je veux le rejoindre et savoir de quelle infidélité il paie la tienne cette nuit. »« Non, non, retournons !» s'écria Clorinda. « Il a l'œil si perçant et l'oreille si fine, gardons-nous bien de le troubler. »« Marche, te dis-je » cria Anzoletto à son barcarolle. « Je veux rejoindre cette barque que tu vois là devant nous. » Ce fut, malgré la prière et la terreur de Clorinda, l'affaire d'un instant. Les deux barques s'effleurèrent de nouveau, et Anzoletto entendit un éclat de rire mal étouffé partir de la gondole. « À la bonne heure, dit-il, ceci est de bonne guerre. C'est la Corilla qui prend le frais avec monsieur le comte. » En parlant ainsi, Anzoletto sauta sur l'avant de sa gondole, prit la rame des mains de son barcarolle et, suivant l'autre gondole avec rapidité, la rejoignit, l'effleura de nouveau et, soit qu'il eût entendu son nom au milieu des éclats de rire de la Corilla, soit qu'un accès de démence se fût emparé de lui, il se mit à dire tout haut « Chère Clorinda, tu es sans contredit la plus belle et la plus aimée de toutes les femmes. » « J'en disais autant tout à l'heure à la Corilla, » répondit aussitôt le comte en sortant de sa cabanette et en s'avançant vers l'autre barque avec une grande aisance. « Et maintenant que nos promenades sont terminées de part et d'autre, nous pourrions faire un échange, comme entre gens de bonne foi qui trafiquent de richesses équivalentes. » « Monsieur le comte rend justice à ma loyauté, » répondit Anzoletto sur le même ton. « Je vais, s'il veut bien me le permettre, lui offrir mon bras pour qu'il puisse venir reprendre son bien où il le retrouve. » Le comte avança le bras pour s'appuyer sur Anzoletto, dans je ne sais quelle intention railleuse et méprisante pour lui et leur commune maîtresse. Mais le ténor, dévoré de haine et transporté d'une rage profonde, s'élança de tout le poids de son corps sur la gondole du comte et la fit chavirer en s'écriant d'une voix sauvage « Femme pour femme, monsieur le comte, et gondole pour gondole !» Puis, abandonnant ses victimes à leur destinée, ainsi que la Clorinda à sa stupeur et aux conséquences de l'aventure, il gagna à la nage la rive opposée, prit sa course à travers les rues sombres et tortueuses, entra dans son logement, changea de vêtements en un clin d'œil, emporta tout l'argent qu'il possédait, sortit, se jeta dans la première chaloupe qui mettait à la voile. Et, cinglant vers Trieste, il fit claquer ses doigts en signe de triomphe, en voyant les clochers et les dômes de Venise s'abaisser sous les flots aux premières clartés du matin. Chapitre 22. Dans la ramification occidentale des monts Carpates qui sépare la Bohême de la Bavière et qui prend dans ces contrées le nom de Bohemerwald, forêt de Bohême, s'élevait encore, il y a une centaine d'années, un vieux manoir très vaste, appelé, en vertu de je ne sais quelle tradition, le château des géants. Quoiqu'il eût de loin l'apparence d'une antique forteresse, ce n'était plus qu'une maison de plaisance, décorée à l'intérieur, dans le goût déjà suranné à cette époque, mais toujours somptueux et noble, de Louis XIV. L'architecture féodale avait aussi subi d'heureuses modifications dans les parties de l'édifice occupées par les seigneurs de Rudolstadt, maîtres de ce riche domaine. Cette famille, d'origine bohème, avait germanisé son nom en abjurant la réforme à l'époque la plus tragique de la guerre de 30 ans. Un noble et vaillant aïeul, protestant inflexible, avait été massacré sur la montagne voisine de son château par la soldatesque fanatique. Sa veuve, qui était de famille saxonne, sauva la fortune et la vie de ses jeunes enfants en se proclamant catholique et en confiant l'éducation des héritiers de Rudolstadt à des jésuites. Après 2 générations, la Bohême étant muette et opprimée, la puissance autrichienne définitivement affermie, la gloire et les malheurs de la réforme oubliés, du moins en apparence, les seigneurs de Rudolstadt pratiquaient doucement les vertus chrétiennes, professaient le dogme romain et vivaient dans leurs terres avec une somptueuse simplicité, en bons aristocrates et en fidèles serviteurs de Marie-Thérèse. Ils avaient fait leur preuve de bravoure autrefois au service de l'empereur Charles VI, mais on s'étonnait que le dernier de cette race illustre et vaillante, le jeune Albert, fils unique du comte Christian de Rudolstadt, n'eût point porté les armes dans la guerre de succession qui venait de finir, et qu'il fût arrivé à l'âge de 30 ans, sans avoir connu ni recherché d'autre grandeur que celle de sa naissance et de sa fortune. Cette conduite étrange avait inspiré à sa souveraine des soupçons de complicité avec ses ennemis. Mais le comte Christian, ayant eu l'honneur de recevoir l'impératrice dans son château, lui avait donné de la conduite de son fils des excuses dont elle avait paru satisfaite. De l'entretien de Marie-Thérèse avec le comte de Rudolfstadt, rien n'avait transpiré. Un mystère étrange régnait dans le sanctuaire de cette famille dévote et bienfaisante, que depuis 10 ans aucun voisin ne fréquentait assidûment, qu'aucune affaire, aucun plaisir, aucune agitation politique ne faisait sortir de ses domaines, qui payait largement et sans murmurer tous les subsides de la guerre, ne montrant aucune agitation au milieu des dangers et des malheurs publics, qui, enfin, ne semblait plus vivre de la même vie que les autres nobles, et de laquelle on se méfiait, bien qu'on n'eût jamais eu à enregistrer de ses faits extérieurs que de bonnes actions et de nobles procédés. Ne sachant à quoi attribuer cette vie froide et retirée, on accusait les Rudolfstadt tantôt de misanthropie, tantôt d'avarice. Mais, comme à chaque instant, leur conduite donnait un démenti à ces imputations, on était réduit à leur reprocher simplement trop d'apathie et de nonchalance. On disait que le comte Christian n'avait pas voulu exposer les jours de son fils unique, dernier héritier de son nom, dans ces guerres désastreuses, et que l'impératrice avait accepté, en échange de ses services militaires, une somme d'argent assez forte pour équiper un régiment de hussards. Les nobles dames, qui avaient des filles à marier, disaient que le comte avait fort bien agi. Mais lorsqu'elles apprirent la résolution que semblait manifester Christian de marier son fils dans sa propre famille, en lui faisant épouser la fille du baron Frédéric, son frère, quand elles surent que la jeune baronne Amélie venait de quitter le couvent où elle avait été élevée à Prague pour habiter désormais auprès de son cousin le château des Géants, ces nobles dames déclarèrent unanimement que la famille des Rudolfstadt était une tanière de loups, tous plus insociables et plus sauvages les uns que les autres. Quelques serviteurs incorruptibles et quelques amis dévoués surent seuls le secret de la famille et le gardèrent fidèlement. Cette noble famille était rassemblée un soir autour d'une table chargée à profusion de gibier et de ces mets substantiels dont nos aïeux se nourrissaient encore à cette époque dans les pays slaves, en dépit des raffinements que la cour de Louis XV avait introduits dans les habitudes aristocratiques d'une grande partie de l'Europe. Un poêle immense, où brûlaient des chênes tout entiers, réchauffait la salle vaste et sombre. Le comte Christian venait d'achever à voix haute le Benedicite que les autres membres de la famille avaient écouté debout. De nombreux serviteurs, tous vieux et graves, en costume du pays, en larges culottes de mameluques et en longues moustaches, se pressaient lentement autour de leur maître révéré. Le chapelain du château s'assit à la droite du comte, et sa nièce, la jeune baronne Amélie, à sa gauche, le côté du cœur, comme il affectait de le dire, avec un air de galanterie austère et paternelle. Le baron Frédéric, son frère puiné, qu'il appelait toujours son jeune frère, parce qu'il n'avait guère que 60 ans, se plaça en face de lui. La chanoinesse Wenceslawa de Rudolfstadt, sa sœur aînée, respectable personnage sexagénaire, affligé d'une bosse énorme et d'une maigreur effrayante, s'assit à un bout de la table. Et le comte Albert, fils du comte Christian, le fiancé d'Amélie, le dernier des Rudolfstadt, vint, pâle et morne, s'installer d'un air distrait à l'autre bout, vis-à-vis de sa noble tante. De tous ces personnages silencieux, Albert était certainement le moins disposé et le moins habitué à donner de l'animation aux autres. Le chapelain était si dévoué à ses maîtres et si respectueux envers le chef de la famille qu'il n'ouvrait guère la bouche sans y être sollicité par un regard du comte Christian. et celui-ci était d'une nature si paisible et si recueillie qu'il n'éprouvait presque jamais le besoin de chercher dans les autres une distraction à ses propres pensées. Le baron Frédéric était un caractère moins profond et un tempérament plus actif, mais son esprit n'était guère plus animé. Aussi doux et aussi bienveillant que son aîné, il avait moins d'intelligence et d'enthousiasme intérieur. Sa dévotion était toute d'habitude et de savoir-vivre. Son unique passion était la chasse. Il y passait toutes ses journées, rentrait chaque soir, non fatigué, c'était un corps de fer, mais rouge, essoufflé et affamé. Il mangeait comme 10, buvait comme 30, s'égayait un peu au dessert en racontant comment son chien Saphir avait forcé le lièvre, comment sa chienne Panthère avait dépisté le loup, comment son faucon Attila avait pris le vol. Et quand on l'avait écouté avec une complaisance inépuisable, il s'assoupissait doucement auprès du feu dans un grand fauteuil de cuir noir, jusqu'à ce que sa fille l'eût averti que son heure d'aller se mettre au lit venait de sonner. La chanoinesse était la plus causeuse de la famille. Elle pouvait même passer pour babillarde, car il lui arrivait au moins 2 fois par semaine de discuter 1 quart d'heure durant avec le chapelain sur la généalogie des familles bohèmes, hongroises et saxonnes, qu'elle savait sur le bout de son doigt, depuis celle des rois jusqu'à celle du moindre gentilhomme. Quant au comte Albert, son extérieur avait quelque chose d'effrayant et de solennel pour les autres, comme si chacun de ses gestes eût été un présage et chacune de ses paroles une sentence. Par une bizarrerie inexplicable à quiconque n'était pas initié au secret de la maison, dès qu'il ouvrait la bouche, ce qui n'arrivait pas toujours 1 fois par 24 heures, tous les regards des parents et des serviteurs se portaient sur lui. Et alors, on eût pu lire sur tous les visages une anxiété profonde, une sollicitude douloureuse et tendre, excepté cependant sur celui de la jeune Amélie, qui n'accueillait pas toujours ses paroles sans un mélange d'impatience ou de moquerie, et qui seule osait y répondre avec une familiarité dédaigneuse ou enjouée, suivant sa disposition du moment. Cette jeune fille blonde, un peu haute en couleur, vive et bien faite, était une petite perle de beauté. Et quand sa femme de chambre lui disait pour la consoler de son ennui, « Hélas !» répondait la jeune fille, « je suis une perle enfermée dans ma triste famille, comme dans une huître dont cet affreux château des géants est l'écaille. » C'est en dire assez pour faire comprendre au lecteur quel pétulant oiseau renfermait cette impitoyable cage. Ce soir-là, le silence solennel qui pesait sur la famille, particulièrement au premier service, car les 2 vieux seigneurs, la chanoinesse et le chapelain, avaient une solidité et une régularité d'appétit qui ne se démentaient en aucune saison de l'année, fut interrompu par le comte Albert. « Quel temps affreux !» dit-il avec un profond soupir. Chacun se regarda avec surprise, car si le temps était devenu sombre et menaçant, depuis 1 heure qu'on se tenait dans l'intérieur du château et que les épais volets de chêne étaient fermés, nul ne pouvait s'en apercevoir. Un calme profond régnait au dehors comme au dedans, et rien n'annonçait qu'une tempête dût éclater prochainement. Cependant, nul ne s'avisa de contredire Albert, et Amélie seule se contenta de hausser les épaules, tandis que le jeu des fourchettes et le cliquetis de la vaisselle, échangés lentement par les valets, recommençaient après un moment d'interruption et d'inquiétude. « N'entendez-vous pas le vent qui se déchaîne dans les sapins du Bohemerwald et la voix du torrent qui monte jusqu'à vous ?» reprit Albert d'une voix plus haute et avec un regard fixe dirigé vers son père. Le comte Christian ne répondit rien. Le baron, qui avait coutume de tout concilier, répondit, sans quitter des yeux le morceau de venaison qu'il taillait d'une main athlétique comme il eût fait d'un quartier de granit. En effet, le vent était à la pluie au coucher du soleil, et nous pourrions bien avoir mauvais temps pour la journée de demain. Albert sourit d'un air étrange, et tout redevint morne. Mais 5 minutes s'étaient à peine écoulées qu'un coup de vent terrible ébranla les vitraux des immenses croisées, rugit à plusieurs reprises en battant comme d'un fouet les eaux du fossé, et se perdit dans les hauteurs de la montagne avec un gémissement si aigu et si plaintif que tous les visages en pâlirent, à l'exception de celui d'Albert, qui sourit encore avec la même expression indéfinissable que la première fois. « Il y a en ce moment, dit-il, une âme que l'orage pousse vers nous. Vous feriez bien, monsieur le chapelain, de prier pour ceux qui voyagent dans nos âpres montagnes sous le coup de la tempête. » « Je prie à toute heure et du fond de mon âme, répondit le chapelain tout tremblant, pour ceux qui cheminent dans les rudes sentiers de la vie sous la tempête des passions humaines. « Ne lui répondez donc pas, monsieur le chapelain, dit Amélie sans faire attention aux regards et aux signes qui l'avertissaient de tous côtés de ne pas donner de suite à cet entretien. « Vous savez bien que mon cousin se fait un plaisir de tourmenter les autres en leur parlant par énigmes. Quant à moi, je ne tiens guère à savoir le mot des siennes. » Le comte Albert ne parut pas faire plus attention au dédain de sa cousine qu'elle ne prétendait en accorder à ses discours bizarres. Il mit un coude dans son assiette, qui était presque toujours vide et nette devant lui, et... Chapitre 23. Une tempête furieuse éclata durant le souper, lequel durait toujours 2 heures, ni plus ni moins, même les jours d'abstinence, que l'on observait religieusement, mais qui ne dégageait point le compte du joug de ses habitudes, aussi sacrées pour lui que les ordonnances de l'Église romaine. L'orage était trop fréquent dans ces montagnes, et les immenses forêts qui couvraient encore leurs flancs à cette époque donnaient au bruit du vent et de la foudre des retentissements et des échos trop connus des hôtes du château, pour qu'un accident de cette nature les émût énormément. Cependant, l'agitation extraordinaire que montrait le comte Albert se communiqua involontairement à la famille, et le baron, troublé dans les douceurs de sa réfection, en eût éprouvé quelque humeur s'il eût été possible, à sa douceur bienveillante, de se démentir un seul instant. Il se contenta de soupirer profondément lorsqu'un épouvantable éclat de la foudre, survenu à l'entremets, impressionna l'écuyer tranchant au point de lui faire manquer la noix du jambon de sanglier qu'il entamait en cet instant. « C'est une affaire faite, dit-il en adressant un sourire compatissant au pauvre écuyer consterné de sa mésaventure. « Oui, mon oncle, vous avez raison, s'écria le comte Albert d'une voix forte et en se levant. « C'est une affaire faite. Le hussite est abattu. La foudre le consume. Le printemps ne reverdira plus son feuillage. « Que veux-tu dire, mon fils ? Demanda le vieux Christian avec tristesse. « Parles-tu du grand chêne de Schreckenstein ? Oui, mon père. Je parle du grand chêne aux branches duquel nous avons fait pendre l'autre semaine plus de 20 moines augustins. Il prend les siècles pour des semaines à présent, dit la chanoinesse à voix basse en faisant un grand signe de croix. « S'il est vrai, mon cher enfant, ajouta-t-elle plus haut et en s'adressant à son neveu, que vous ayez vu dans votre rêve une chose réellement arrivée ou devait arriver prochainement, comme en effet ce hasard singulier s'est rencontré plusieurs fois dans votre imagination, ce ne sera pas une grande perte pour nous que ce vilain chêne à moitié desséché, qui nous rappelle, ainsi que le rocher qui l'ombrage, de si funestes souvenirs historiques. « Quant à moi, reprit vivement Amélie, heureuse de trouver enfin une occasion de dégourdir un peu sa petite langue, je remercierai l'orage de nous avoir débarrassés du spectacle de cette affreuse potence, dont les branches ressemblent à des ossements, et dont le tronc couvert d'une mousse rougeâtre paraît toujours suinté du sang. Je ne suis jamais passé le soir sous son ombre sans frissonner au souffle du vent qui râle dans son feuillage, comme des soupirs d'agonie, et je recommande alors mon âme à Dieu, tout en doublant le pas et en détournant la tête. Amélie, reprit le jeune comte, qui pour la première fois peut-être, depuis bien des jours, avait écouté avec attention les paroles de sa cousine. Vous avez bien fait de ne pas rester sous le hussite, comme je l'ai fait des heures et des nuits entières. Vous eussiez vu et entendu là des choses qui vous eussent glacé d'effroi, et dont le souvenir ne se fût jamais effacé de votre mémoire. Taisez-vous ! S'écria la jeune baronne en tressaillant sur sa chaise, comme pour s'éloigner de la table où s'appuyait Albert. Je ne comprends pas l'insupportable amusement que vous vous donnez de me faire peur, chaque fois qu'il vous plaît de desserrer les dents. Plutôt ciel, ma chère Amélie, dit le vieux Christian avec douceur, que ce fût en effet un amusement pour votre cousin de dire de pareilles choses. Non, mon père, c'est très sérieusement que je vous parle, reprit le comte Albert. Le chêne de la pierre d'épouvante est renversé, fendu en quatre, et vous pouvez demain envoyer les bûcherons pour le dépecer. Je planterai un cyprès à la place, et je l'appellerai non plus le hussite, mais le pénitent. Et la pierre d'épouvante, il y a longtemps que vous eussiez dû la nommer pierre d'expiation. Assez, assez, mon fils, dit le vieillard avec une angoisse extrême. Éloignez de vous ces tristes images, et remettez-vous à Dieu du soin de juger les actions des hommes. Les tristes images ont disparu, mon père. Elles rentrent dans le néant avec ces instruments de supplice que le souffle de l'orage et le feu du ciel viennent de coucher dans la poussière. Je vois, à la place des squelettes qui pendaient aux branches, des fleurs et des fruits que le zéphyr balance aux rameaux d'une tige nouvelle. À la place de l'homme noir qui chaque nuit rallumait le bûcher, je vois une âme toute blanche et toute céleste qui plane sur ma tête et sur la vôtre. L'orage se dissipe, ô mes chers parents. Le danger est passé. Ceux qui voyagent sont à l'abri. Mon âme est en paix. Le temps de l'expiation touche à sa fin. Je me sens renaître. Puisses-tu dire vrai, ô mon fils bien-aimé ? Répondit le vieux Christian d'une voix émue et avec un accent de tendresse profonde. Puisses-tu être délivré des visions et des fantômes qui assiègent ton repos ? Dieu me ferait-il cette grâce de rendre à mon cher Albert le repos, l'espérance et la lumière de la foi ? Avant que le vieillard eût achevé ses affectueuses paroles, Albert s'était doucement incliné sur la table et paraissait tomber subitement dans un paisible sommeil. « Qu'est-ce que cela signifie encore ? » dit la jeune baronne à son père. « Le voilà qui s'endort à table ? C'est vraiment fort galant !»« Ce sommeil soudain et profond, » dit le chapelain en regardant le jeune homme avec intérêt, « est une crise favorable et qui me fait présager, pour quelque temps du moins, un heureux changement dans sa situation. » « Que personne ne lui parle !» dit le comte Christian, « et ne cherche à le tirer de cet assoupissement. »« Seigneur miséricordieux !» dit la chanoinesse avec effusion en joignant les mains. « Faites que sa prédiction constante se réalise, et que le jour où il entre dans sa 30e année soit celui de sa guérison définitive. »« Amen !» ajouta le chapelain avec componction. Élevons tous nos cœurs vers le Dieu de miséricorde, et en lui rendant grâce de la nourriture que nous venons de prendre, supplions-le de nous accorder la délivrance de ce noble enfant, objet de toutes nos sollicitudes. On se leva pour réciter les grâces, et chacun resta debout pendant quelques minutes, occupé à prier intérieurement pour le dernier des Rudolfstadt. Le vieux Christian y mit tant de ferveur que deux grosses larmes coulèrent sur ses joues flétries. Le vieillard venait de donner à ses fidèles serviteurs l'ordre d'emporter son fils dans son appartement, lorsque le baron Frédéric, ayant cherché naïvement dans sa cervelle par quel acte de dévouement il pourrait contribuer au bien-être de son cher neveu, dit à son aîné d'un air de satisfaction enfantine « « Il me vient une bonne idée, frère. Si ton fils se réveille dans la solitude de son appartement, au milieu de sa digestion, il peut lui venir encore quelques idées noires par suite de quelques mauvais rêves. fais-le transporter dans le salon, et qu'on l'asseye sur mon grand fauteuil. C'est le meilleur de la maison pour dormir. Il y sera mieux que dans son lit. Et quand il se réveillera, il trouvera du moins un bon feu pour égayer ses regards, et des figures amies pour réjouir son cœur. Vous avez raison, mon frère, répondit Christian. On peut en effet le transporter au salon et le coucher sur le grand sofa.
Il est très pernicieux de dormir étendu après souper, s'écria le baron.
Croyez-moi, frère, je sais cela par expérience. Il faut lui donner mon fauteuil. Oui, je veux absolument qu'il ait mon fauteuil.
Christian comprit que refuser l'offre de son frère serait lui faire un véritable chagrin. On installa donc le jeune comte dans le fauteuil de cuir du vieux chasseur, sans qu'il s'aperçût en aucune façon du dérangement, tant son sommeil était voisin de l'état léthargique. Le baron s'assit tout joyeux et tout fier sur un autre siège, se chauffant les tibias devant un feu digne des temps antiques, et souriant d'un air de triomphe chaque fois que le chapelain faisait la remarque que ce sommeil du comte Albert devait avoir un heureux résultat. Le bonhomme se promettait de sacrifier sa sieste aussi bien que son fauteuil, et de s'associer au reste de sa famille pour veiller sur le jeune comte. Mais, au bout d'un quart d'heure, il s'habitua si bien à son nouveau siège qu'il se mit à ronfler sur un ton à couvrir les derniers grondements du tonnerre, qui se perdait par degrés dans l'éloignement. Le bruit de la grosse cloche du château, celle qu'on ne sonnait que pour les visites extraordinaires, se fit tout à coup entendre, et le vieux Hans, le doyen des serviteurs de la maison, entra peu après, tenant une grande lettre qu'il présenta au comte Christian, sans dire une seule parole. Puis il sortit pour attendre dans la salle voisine les ordres de son maître. Christian ouvrit la lettre, et, ayant jeté les yeux sur la signature, présenta ce papier à la jeune baronne en la priant de lui en faire la lecture. Amélie, curieuse et empressée, s'approcha d'une bougie et lut tout haut ce qui suit. « Illustre et bien-aimé seigneur comte, votre excellence me fait l'honneur de me demander un service. C'est m'en rendre un plus grand encore que tous ceux que j'ai reçus d'elle et dont mon cœur chérit et conserve le souvenir. Malgré mon empressement à exécuter ses ordres révérés, je n'espérais pas cependant trouver la personne qu'elle me demande aussi promptement et aussi convenablement que je désirais le faire. Mais des circonstances favorables, venant à coïncider d'une manière imprévue avec les désirs de votre seigneurie, je m'empresse de lui envoyer une jeune personne qui remplit une partie des conditions imposées. Elle ne les remplit cependant pas toutes. Aussi je ne l'envoie que provisoirement, et pour donner à votre illustre et aimable nièce le loisir d'attendre, sans trop d'impatience, un résultat plus complet de mes recherches et de mes démarches. La personne qui aura l'honneur de vous remettre cette lettre est mon élève et ma fille adoptive en quelque sorte. Elle sera, ainsi que le désire l'aimable baronne Amélie, à la fois une demoiselle de compagnie obligeante et gracieuse, et une institutrice savante dans la musique. Elle n'a point du reste l'instruction que vous réclamez d'une gouvernante. Elle parle facilement plusieurs langues, mais elle ne les sait peut-être pas assez correctement pour les enseigner. Elle possède à fond la musique et chante remarquablement bien. Vous serez satisfait de son talent, de sa voix et de son maintien. Vous ne le serez pas moins de la douceur et de la dignité de son caractère. Et vos seigneuries pourront l'admettre dans leur intimité, sans crainte de lui voir jamais commettre une inconvenance ni donner la preuve d'un mauvais sentiment. Elle désire être libre dans la mesure de ses devoirs envers votre noble famille, et ne point recevoir d'honoraires. En un mot, ce n'est ni une duègne ni une suivante que j'adresse à l'aimable baronne, mais une compagne et une amie. Ainsi qu'elle m'a fait l'honneur de me le demander, dans le gracieux post-scriptum ajouté de sa belle main à la lettre de votre excellence. Le seigneur Corner, nommé à l'ambassade d'Autriche, attend l'ordre de son départ, mais il est à peu près certain que cet ordre n'arrivera pas avant 2 mois.
La signora Corner, sa digne épouse et ma généreuse élève, veut m'emmener à Vienne, où, selon elle, ma carrière doit prendre une face plus heureuse. Sans croire à un meilleur avenir, je cède à ses offres bienveillantes. Avide que je suis de quitter l'ingrate Venise, où je n'ai éprouvé que déception, affront et revers de tout genre. Il me tarde de revoir la noble Allemagne, où j'ai connu des jours plus heureux et plus doux, et les amis vénérables que j'y ai laissés. Votre seigneurie sait bien qu'elle occupe une des premières places dans les souvenirs de ce vieux cœur froissé, mais non refroidi, qu'elle a rempli d'une éternelle affection et d'une profonde gratitude. C'est donc à vous, seigneur illustrissime, que je recommande et confie ma fille adoptive, vous demandant pour elle hospitalité, protection et bénédiction. Elle saura reconnaître vos bontés par son zèle à se rendre utile et agréable à la jeune baronne. Dans 3 mois, au plus, j'irai la reprendre et vous présenter à sa place une institutrice qui pourra contracter avec votre illustre famille de plus longs engagements. En attendant ce jour fortuné où je presserai dans mes mains la main du meilleur des hommes, j'ose me dire, avec respect et fierté, le plus humble des serviteurs et le plus dévoué des amis de votre excellence, carissima, stimatissima, illustrissima, etc. Nicolas Porpora, maître de chapelle, compositeur et professeur de chant, Venise, le 17. Amélie sauta de joie en achevant cette lettre, tandis que le vieux comte répétait à plusieurs reprises avec attendrissement « Digne Porpora, excellent ami, homme respectable !»« Certainement, certainement !» dit la chanoinesse Wenceslawa. Partagée entre la crainte de voir les habitudes de la famille dérangées par l'arrivée d'une étrangère et le désir d'exercer noblement les devoirs de l'hospitalité. « Il faudra la bien recevoir, la bien traiter, pourvu qu'elle ne s'ennuie pas ici !» Mon oncle, où donc est ma future amie, ma précieuse maîtresse ? S'écria la jeune baronne sans écouter les réflexions de sa tante. Sans doute elle va arriver bientôt en personne. Je l'attends avec une impatience. Le comte Christian sonna. Hans, dit-il au vieux serviteur, par qui cette lettre vous a-t-elle été remise ?
Par une dame, monseigneur maître.
Elle est déjà ici ? S'écria Amélie. « Où donc ? Où donc ?»«
Dans sa chaise de poste, à l'entrée du pont-levis. »«
Et vous l'avez laissé se morfondre à la porte du château, au lieu de l'introduire tout de suite au salon ?»«
Oui, madame la baronne, j'ai pris la lettre. J'ai défendu au postillon de mettre le pied hors de l'étrier, ni de quitter ses rênes. J'ai fait relever le pont derrière moi, et j'ai remis la lettre à monseigneur maître. »«
Mais c'est absurde, impardonnable, de faire attendre ainsi par le mauvais temps les hôtes qui nous arrivent. Ne dirait-on pas que nous sommes dans une forteresse et que tous les gens qui en approchent sont des ennemis ? Courez donc, Hans !»
Hans resta immobile comme une statue. Ses yeux seuls exprimaient le regret de ne pouvoir obéir au désir de sa jeune maîtresse. Mais un boulet de canon passant sur sa tête n'eût pas dérangé d'une ligne l'attitude impassible dans laquelle il attendait les ordres souverains de son vieux maître.
« Le fidèle Hans ne connaît que son devoir et sa consigne, ma chère enfant !» dit enfin le comte Christian avec une lenteur qui fit bouillir le sang de la baronne.
« Maintenant, Hans, allez faire ouvrir la grille et baisser le pont. Que tout le monde aille avec des flambeaux recevoir la voyageuse. Qu'elle soit ici la bienvenue. » Hans ne montra pas la moindre surprise d'avoir à introduire d'emblée une inconnue dans cette maison, où les parents les plus proches et les amis les plus sûrs n'étaient jamais admis sans précaution et sans lenteur. La chanoinesse alla donner des ordres pour le souper de l'étrangère. Amélie voulut courir au pont-levis. Mais son oncle, tenant à honneur d'aller lui-même à la rencontre de son hôtesse, lui offrit son bras. Et force fut à l'impétueuse petite baronne de se traîner majestueusement jusqu'au péristyle, où déjà la chaise de poste venait de déposer, sur les premières marches, l'errante et fugitive Consuelo.